en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
C'est à l'occasion des 50 ans de la réforme qui créa les centres hospitalo-universitaires que l'Académie nationale de médecine a rendu hommage à l'un de ses fondateurs, Robert Debré. Canal Academy retransmet le témoignage de sa fille, Claude Monobroca, évoquant quelques aspects peu connus de son père. Lui succède une lecture d'un extrait du dernier ouvrage de Jean Dausset, lecture assurée par Jacques Lubinet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, dans « Clin d'œil à la vie », paru en 2007, le prix Nobel de médecine Jean Dausset, qui a bien connu Robert Debré, développe le travail avec ce dernier à la création du système hospitalo-universitaire, autrement dit les CHU. Cette séance de l'Académie nationale de médecine s'est déroulée fin 2008. Tout de suite, Claude Monobroca.
En cette année 2008, où l'on célèbre les 50 ans de la réforme qui créa les centres hospitalo-universitaires, la réforme Debré, il a paru juste, et il m'a été demandé, de rappeler le souvenir de son principal créateur, Robert Debré, mon père, mort il y a exactement 30 ans, et de l'évoquer devant les membres de l'Académie de médecine. Il fut élu à cette Académie en 1933. Il rappelait toujours avec émotion que la première fois qu'il pénétra dans la salle des séances, ce furent Marie Curie et M. Roux qu'il vit tout d'abord. Il fut président de cette compagnie en 1958. Toujours assidu aux séances, c'est à ces mardis de la rue Bonaparte qu'il resta sur ses vieux jours le plus longtemps fidèle. Ce temps est lointain. Aussi, il me paraît certain que peu des académiciens d'aujourd'hui l'ont côtoyé, l'ont connu. Il ne m'appartient pas de dire ce que Robert Debré apporta à la médecine et plus particulièrement à la pédiatrie, d'énumérer les syndromes auxquels son nom reste attaché, les réalisations qui furent siennes depuis le placement familial des tout-petits au début de sa carrière pour protéger les nouveaux-nés de mères tuberculeuses, jusqu'au Centre international de l'enfance après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement disparu, ainsi que sa participation à la création du Fonds international de secours à l'enfance, l'UNICEF. D'autres l'ont fait ou le feront mieux que moi. Je ne parlerai pas non plus de ses nombreux voyages dans le vaste monde, voyages vers des pays en voie de développement et particulièrement en Afrique. Sur sa tombe, en Touraine, une seule plaque, les enfants et les mères d'Afrique noire au professeur Robert Debré. Voyage dans toute l'Europe et l'Amérique pour connaître les hôpitaux, les facultés, les médecins, leurs méthodes de travail, leur genre de vie. Ses réflexions d'alors ne furent pas étrangères à sa réforme. Je passerai aussi sous silence beaucoup d'autres domaines. Mais quelques mots sur différentes périodes de sa vie qui fut longue le situeront et montreront certains traits peu connu de sa personnalité. Robert Debré est né en 1882 à Sedan, ses parents ayant quitté l'Alsace, annexée par les Allemands après la défaite de 70. Son père était une famille de vieilles souches alsaciennes, sa mère était lorraine. Puis son père, qui était rabbin, étant nommé à Neuilly, c'est à Paris que mon père fit ses études. Au lycée d'abord, ce fut Janson de Sailly, études littéraires, latin, grec, terminées par la classe de philosophie. Au sortir du lycée, passionné par la philosophie, il s'inscrit, entraînant plusieurs de ses camarades, à la Sorbonne. Il alla jusqu'à la licence. Pour obtenir celle-ci, il fallait rédiger un mémoire. Mon père choisit comme sujet Cabanis, médecin et philosophe. À cette définition, le dictionnaire ajoute, entre autres, il participa à la réorganisation des études médicales. Est-ce un hasard? Déjà au lycée, mon père avait fait la découverte du monde ouvrier, entraîné par un de ses amis de Janson, Louzon, qui était anarchiste. Amitié qui dura 80 ans, malgré leurs lignes de vie bien différentes. Par Louzon, mon père se lia à des ouvriers de Grenelle. Très ému par l'état du prolétariat, il s'intéressa aux syndicats ouvriers, aux universités populaires. Il participa à la création d'une imprimerie autogérée, l'Émancipatrice, dont l'inauguration fut présidée par Anatole France. Ce fut pour Robert Debré une époque de crise, de bouleversement. Il alla jusqu'à se demander s'il serait un bourgeois ou un révolutionnaire. C'est pendant ses études en Sorbonne qu'il fit la connaissance de Jacques Maritain et de Charles Péguy. Celui-ci eut d'emblée une grande autorité sur lui. Faire partie des compagnons de Péguy, c'était accepter d'avoir un maître à penser. La recherche de la vérité, la rigueur morale, le culte de l'amitié étaient ses mots d'ordre. C'était embrasser toutes ses causes. Mon père le suivit passionnément dans ses batailles, bataille des étudiants de Réfusard, bataille des cahiers de la quinzaine. Il est sûr que l'influence spirituelle que Péguy exerça sur lui se prolongea toute sa vie. Cependant, malgré l'enthousiasme avec lequel il avait suivi Péguy, mon père s'aperçut qu'il n'était pas fait pour les débats d'idées, qu'il lui fallait de l'action. Il décida brusquement de faire sa médecine. Péguy, mécontent, lui dit « Tu vas passer la moitié de ta vie à passer des examens, la seconde moitié à en faire passer à d'autres. » Mais ce fut à coup sûr le bon choix, comme l'illustre, s'il en était besoin, une réflexion qu'il me fit beaucoup plus tard, alors qu'il était déjà chef de service, lors d'une des premières grèves d'internes ou de personnel médical hospitalier, vraisemblablement pour une question d'indemnité, grève qu'il réprouvait, bien sûr. Il me dit « Mais moi, pour faire ce métier, je payerai. » C'est pendant l'année du PCN, mon père fit la connaissance de celle qu'il devait épouser, Jeanne de Baponsan, qui fut une des toutes premières femmes internes, ma mère. Elle devait mourir à 50 ans. Ils furent nommés tous les deux au concours de 1905. Puis ce fut en effet une longue série d'examens et de concours, et la pédiatrie prise à bras-le-corps selon une de ses propres formules. On a pu dire de lui qu'il était le fondateur de la pédiatrie française et l'un des fondateurs de la pédiatrie mondiale. Un ami américain a dit de lui qu'il était le seul homme d'État de la médecine. À nous, il nous a dit, vers la fin de sa vie, « Depuis qu'il y a une médecine et des médecins, je suis sans doute le médecin du monde qui aura examiné, soigné et si possible guéri le plus grand nombre d'enfants et venu des horizons les plus variés. » Comme tous les hommes de sa génération, sa carrière fut interrompue par la guerre de 14. Les correspondances que j'ai retrouvées montrent qu'il était, ainsi que ses amis, mu par un ardent patriotisme, même son ami anarchiste. Mobilisé comme médecin, il fut affecté à un régiment d'artillerie. De cette guerre, il n'aimait pas parler et trouvait que le silence devait retomber sur ces 4 années interminables et leurs horreurs. Aussi n'avons-nous rien su des combats sous Verdun ni du chemin des dames. Mais par contre, ce que nous avons su, c'est la joie des retrouvailles avec l'Alsace. Ce fut un des plus beaux jours de sa vie, celui où il entra avec l'armée victorieuse dans Strasbourg libérée. Très vite, il fut chargé de prendre la direction de l'Institut d'hygiène et la chaire de bactériologie. Il eut l'honneur et l'émotion de prononcer à l'Université de Strasbourg la première leçon en français. Après un an passé à Strasbourg, il se trouvait devant un choix et après beaucoup d'hésitations, il quitta l'Alsace et regagna Paris. Puis ce furent 20 années de paix et de travail, dominées pour mon père par son activité hospitalière. Chaque matin dans son service, il passait, Selon l'expression qu'il a employée dans la biographie d'un médecin tourangeau, mais qu'on peut lui appliquer, il passait les heures culminantes de sa journée. À cette époque, en effet, comme chacun sait, la journée d'un chef de service comprenait la matinée à l'hôpital où il soignait bénévolement et enseignait la clinique aux jeunes, puis l'après-midi, consultation à domicile et ou en ville, avec certains jours séances de société savante ou jury d'examen à la faculté, et le soir, lecture ou écriture d'articles ou de livres médicaux. Emploi du temps astreignant que certes mon père aimait, mais qu'il ne trouvait pas satisfaisant, ni pour la pratique médicale, ni pour l'enseignement. Robert Debré fut chef d'école. Ses élèves, nombreux, fidèles, étaient reçus dans sa famille, que ce soit à Paris, rue de l'Université, ou en Touraine, dans sa maison des Madères. Des liens très forts d'amitié, d'affection, se tissaient entre eux et le patron. Peu de témoins demeurent. Puis ce fut la deuxième guerre de 1939, la drôle de guerre. Robert Debré fut nommé médecin consultant au grand quartier général avec le grade de lieutenant-colonel. Période de trop grand confort qui lui pesait. Vint la débâcle qui le mena jusqu'à Bordeaux avec le gouvernement. Il venait d'être affecté au ministère de la Santé. Après l'armistice, remonté très vite à Paris, il affronte l'occupation et les lois d'exception anti-juives promulguées par Vichy dès l'été 40. Robert Debré décide de ne rien changer à ses activités, à sa vie. Mais malgré des interventions en sa faveur de personnalités telles que Paul Valéry auprès de Pétain, il est exclu du corps enseignant en décembre 40, bien qu'il vienne d'être élu à l'unanimité par ses pairs à la chaire de clinique médicale des enfants malades. Cependant, il reste dans ses fonctions de chef de service. Ce n'est qu'au début de 43 que le directeur général de l'assistance publique, qui a attendu le plus longtemps possible, vient le voir pour lui annoncer son exclusion. En septembre 43, alors qu'il examinait chez lui un enfant, sa fidèle servante fait irruption dans son bureau. Deux policiers allemands sont dans la cour, puis se rapprochent et sonnent à la porte. Pendant que la servante et la mère du petit malade, rapidement rhabillés, expliquent aux Allemands que le docteur est absent, qu'elles ne savent pas du tout où il peut être, grâce leur soit rendue, mon père sort par une porte de service, gagne la rue et l'abri prévu à l'avance chez son élève Julien-Marie. Les Allemands reviennent le chercher de nombreuses fois, convoquent la servante à la Gestapo, mènent en prison quelques jours sa secrétaire, mais ne le trouvent pas. La vie clandestine dans le maquis parisien commence. Il prend le nom de Flaubert. Depuis le début de l'occupation, mon père était entré dans la résistance. Dans son service hospitalier déjà, on fabriquait de faux papiers, de faux certificats, on cachait des enfants juifs. Puis il créa, avec notamment Pasteur Valéry Radeau, Madame Bertrand Fontaine, Merle Doubigné, Finck Brentano, le comité médical de la résistance. D'autre part, il entre avec Elisabeth de la Panouse, qui fut sa deuxième femme, dans le réseau du musée de l'homme de Boris Vildé. Par ailleurs, un des premiers, il s'est intéressé aux éditions de Minuit. Le silence de la mer de Vercors a été d'abord tapé sur sa machine à écrire et distribué clandestinement en quelques exemplaires. De l'automne 43 à l'été 44, il est caché par son ami le docteur Le Savoureux à la Vallée aux Loups, dans la maison de Chateaubriand. Mais comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu cette vie tantôt dominée par l'angoisse et tantôt apparemment normale? Une consultation vaut qu'on la raconte. Alors que mon père menait encore une vie quasi normale, il fut appelé en consultation à l'ambassade d'Allemagne par un pédiatre allemand qui désirait avoir son avis sur le cas d'un enfant malade. Mon père s'y rendit et tout se passa fort bien. Il nous dit ensuite que tandis qu'il montait les marches de l'ambassade, lui, juif et résistant, pouvant être arrêté d'un jour à l'autre et envoyé dans un camp de concentration, il avait ressenti fortement l'étrangeté de la situation. Autre anecdote, un certain jour de l'hiver 43, un repas réuni à mon domicile parisien, mon père recherché par la Gestapo, mon frère aîné Michel, prisonnier de guerre évadé et recherché également par la Gestapo, et mon jeune frère Olivier, réfractaire au service de travail obligatoire en Allemagne. Nous avions vérifié qu'il était possible de se sauver par le balcon. La réunion fut parfaitement détendue. On peut dire aussi que mon père, comme d'autres, avait dans son tiroir un comprimé de cyanure de potassium à n'employer qu'en cas d'urgence. Quand viennent les combats de la libération de Paris, mon père, qui faisait partie du comité parisien de libération, eut la joie de hisser le 20 août 44, avec l'aide de Pasteur Valéry Radeau et du doyen de la faculté, le drapeau tricolore sur le toit de la vieille faculté de médecine. Il parcourt Paris, prend part au combat, organise les postes de secours, puis à la fin de la bataille, de la semaine de bataille, étant à l'hôtel de ville, il assiste à l'arrivée des premiers chars de la 2e DB de Leclerc. C'est dans la clandestinité que Robert Debré, avec un groupe de médecins résistants, jette les bases de la réforme. Il rédige un rapport sur l'organisation de la profession médicale et de l'enseignement de la médecine. Le comité médical de la résistance le transmet au gouvernement provisoire à Alger en janvier 1944. Et sur cette réforme, je laisse la parole à qui de droit.
Tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, dès la Libération, le modèle français de sécurité sociale a été mis en œuvre dans un grand élan de solidarité. La protection sanitaire et sociale était l'une des préoccupations du général de Gaulle. Grâce aux ordonnances de 1945, complétées en 1960, la grande majorité des Français bénéficiaient d'une large couverture médicale et sociale. Par contre, rien, ou presque rien, n'avait été fait pour moderniser nos hôpitaux. Alors, je ne reprends pas le tableau que connaissent surtout ceux qui nous ont précédés, puisque nous avons eu la chance de vivre, nous, notre génération, dans le cadre du temps plein hospitalier, mais une longue description de ce qu'étaient les hôpitaux régis par des décrets napoléoniens. Les bonnes sœurs à cornette avaient été remplacées par des infirmiers, mais les hôpitaux restaient à l'asile de charité, où l'on craignait d'être envoyé pour y mourir. Les médecins y acquéraient une expérience considérable qu'ils pouvaient reporter sur leur clientèle personnelle. Ils venaient la matinée à l'hôpital, recevaient l'après-midi à leur domicile, et l'hôpital était alors confié à deux internes, l'un en médecine, l'autre en chirurgie, parfois un troisième en accouchement. Un hôpital parisien de 2000 malades pouvait ainsi rester de l'heure du déjeuner jusqu'au lendemain matin sous la responsabilité des seuls internes. Ensuite, le rôle des externes. Ensuite, la faculté totalement isolée du système hospitalier. Et Jean Dausset conclut: la situation était donc anachronique. Ceux qui avaient vu l'exercice de la médecine moderne des hôpitaux étrangers, j'étais l'un de ceux-là, en étaient frappés. Je n'étais pas le seul. Un petit nombre d'amis, dont Guy Vermeil, Daniel Bouteiller, André Roussel, auxquels s'adjoignait de temps en temps Jacques Robin, se sont réunis autour de moi. La réforme de la médecine, voulue et menée avec lucidité et énergie, sans défaillance, a été essentiellement l'œuvre de quatre hommes de génie, Pierre Mendès-France, Robert Debré, Charles de Gaulle et Michel Debré. Mais elle n'aurait sans doute pas été initiée sans l'action catalysatrice d'un petit groupe de jeunes Turcs auxquels, encore une fois c'est Jean Dosset qui parle, auxquels j'avais l'honneur d'appartenir. Rappelons-en rapidement la Genèse en trois phases, l'initiation, la conception et enfin la mise en application. L'initiation par les jeunes Turcs. Imaginez un groupuscule de quasi-conspirateurs, ils étaient tous internes des hôpitaux de Paris, qui se réunissaient assez régulièrement chez l'un ou l'autre et qui rêvaient. Ils rêvaient d'une médecine hospitalière moderne, dynamique, d'un enseignement moins scolastique, d'une médecine de clientèle plus efficace. Ils avaient élaboré un ensemble de mesures concrètes, mais n'avaient pratiquement aucune chance de les voir appliquées. Seul, peut-être, Pierre Mendès-France, qui avait, par son volontarisme lucide, mis une fin honorable à la guerre d'Indochine, s'il revenait au pouvoir, serait-il capable, pensions-nous, d'imposer les modifications nécessaires ? Nous étions beaucoup à l'époque mendésistes, et si le Front républicain gagnait les élections, il y avait de fortes chances que Pierre Mendès-France soit le nouveau président d'un conseil. Pour l'aider, nous nous sommes inscrits au Parti radical, nous avons été dans plusieurs sections, et nous avons écrit à Pierre Mendès-France qui nous répond « Si un certain nombre de médecins radicaux voulaient bien se concerter à ce sujet, la médecine et la recherche, et nous soumettre des propositions concrètes quant aux méthodes par lesquelles nous pourrions étudier ces questions, j'en serais pour ma part très heureux. » Le 3 novembre 1955, toujours Jean Dosset écrit, « Nous constituons l'amicale des médecins radicaux. » Sa vocation, disions-nous, est de constituer progressivement une doctrine sanitaire et sociale. Je n'insiste pas sur cette doctrine qui sera reprise dans le projet. Et le Front républicain fut vainqueur. Malheureusement, Pierre Mendès-France ne fut pas nommé président du Conseil, seulement ministre d'État, titre honorifique, sans pouvoir réel. Une grande surprise nous attendait. Deux d'entre nous furent parachutés sans préavis dans les cabinets ministériels. André Roussel à la santé et moi-même, qui m'étais déclaré chercheur, à l'éducation nationale. Je me sentais frustré, croyant naïvement que la médecine ne pouvait se réformer qu'au ministère de la Santé. En fait, l'éducation nationale était la bonne place. Je me retrouve dans les grands salons dorés de la rue de Grenelle, trop timide pour ouvrir la bouche devant le ministre René Billet, qui pourtant nous traitait paternellement. « Mes enfants, disait-il, faites de l'irréversible. » J'écris sur sa demande une longue lettre au ministre des Finances exposant nos idées. Nous ne nous faisions aucune illusion de ce que pouvaient faire ces jeunes parachutés dans les cabinets ministériels sans l'aide d'une forte personnalité du monde médical, assez puissante pour imposer un tel bouleversement. Nous nous sommes réunis en concile et nous avons voté. Pas de funès noir et blanche, mais le débat fut de courte durée. Deux noms furent discutés. Mollaret, le défenseur intraitable de la profession médicale, chicanier, plus juriste que médecin, était très en vue, mais il s'est avéré plus tard notre ennemi acharné. Robert Debré, d'où nous apprenions d'ailleurs par son élève Guy Vermeil qu'il avait élaboré, et Claude Monobraca en a parlé, un projet de réforme, mais Guy Vermeil lui-même n'en connaissait pas exactement le contenu. Par la suite, nous avons pu constater la surprenante similitude entre notre plan et l'ambitieux projet de Robert Debré. L'accueil que fit Robert Debré à la délégation que je conduisais et qui venait lui demander son aide fut émouvant. Sans aucune hésitation, il se mit à la tête de ses cadets, comme il nous rappelait. Il voyait enfin la possibilité d'appliquer les propositions qu'il avait faites 14 ans plus tôt. On peut concevoir sa joie et son émotion. Ainsi commença pour moi, c'est toujours Jean Dosset qui écrit, la plus extraordinaire aventure, celle de travailler pendant 5 ans aux côtés du plus attachant des patrons. La visite de Robert Debré au ministre fut décisive. Debré demandait pratiquement les pleins pouvoirs pour une réforme de fond, portant sur tous les aspects de la santé, comme en témoigne le titre du comité créé le 18 septembre 1956, Comité interministériel d'études des problèmes de l'enseignement médical, de la structure hospitalière et de l'action sanitaire et sociale. Les membres du comité comptaient les quatre doyens des grandes facultés, dont trois étaient opposants, mais que Robert Debré se faisait fort de convaincre, deux hauts fonctionnaires et moi-même. Notre projet fut présenté au fameux colloque de Caen sur l'enseignement organisé par Pierre Mendès-France. Deuxième temps, la conception. En fait, la réforme fut élaborée par un comité non officiel qui se réunissait en soirée dans la salle à manger de la rue de l'Université du Patron. En une année, les textes concernant les centres hospitaliers, leur personnel étaient prêts et ils étaient fondés sur trois principes. Le temps plein pour tous, de l'interne au chef de service. Adieu la clientèle de ville. La fusion des carrières hospitalières et universitaires. Tous les professeurs de faculté, qu'ils soient cliniciens ou fondamentalistes, devenaient hospitaliers. Et cela signifiait en force l'entrée en force des disciplines fondamentales dans les hôpitaux. Enfin, le troisième principe était la triple mission de ce personnel qui devait se vouer, comme disait Robert Debré, aux soins, à l'enseignement et à la recherche. Restait l'épreuve de vérité, l'aval des représentants du peuple, les députés et les sénateurs. Malgré que ces textes eussent été approuvés par les deux grandes instances des ministères de l'Éducation nationale et de la Santé, ils avaient peu de chances de passer la barrière des égoïsmes, des intérêts corporatifs du lobby médical, très puissant à la Chambre des députés. Le projet fut donc entièrement préparé sous la IVe République. Sans une circonstance inespérée, il serait allé comme tant d'autres dans les tiroirs. Et le premier miracle fut le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, d'abord comme président du Conseil de la IVe République, puis comme président de la Ve. Charles de Gaulle avait obtenu des parlementaires les pleins pouvoirs pour 6 mois. La visite de Robert Debré au général fut capitale. Celui-ci fut convaincu par la force de persuasion, la clarté de l'exposé et la conviction intime de Robert Debré. Il approuvait une réforme en profondeur telle qu'il la souhaitait pour la France, et demanda à ses services de forcer le pas pour qu'il puisse signer les textes avant qu'il ait le droit de légiférer par ordonnance. Et de fait, l'ordonnance fut signée le dernier jour des pleins pouvoirs, le 30 décembre 1958. L'application. Par une suite étonnante de circonstances favorables, un deuxième miracle. Le général de Gaulle, devenu président de la République, nomme Michel Debré Premier ministre. Et le fils s'applique à mettre en œuvre rapidement les concepts du père. Il le fait avec toute sa clairvoyance, toute son efficacité, auxquelles nous devons rendre hommage. Bien des difficultés avaient été surmontées, des hostilités vaincues. Nous étions considérés comme de véritables troubles-fêtes, accusés de voir socialiser la médecine, voire d'être de dangereux communistes. Je me souviens d'avoir reçu la nuit des menaces de mort, et ma famille ne me connaissait plus. Robert Debré, alors président de l'Académie de médecine, présente ici même à ses confrères l'avant-projet de texte concernant le personnel des centres hospitaliers universitaires, personnel désigné dans les articles par le terme infamant de fonctionnaire. Tollé général, alors que la plupart des académiciens étaient professeurs et donc déjà fonctionnaires, Robert Debré se rétracte, invoque une erreur de rédacteur. Parmi ceux-ci, un jeune auditeur au Conseil d'État, un certain Édouard Balladur, qui dignement donne sa démission le soir même. Voilà un témoignage d'hostilité des patrons, et pardon, mais ma famille en est responsable. Une lettre que j'ai retrouvée, c'est toujours Jean Dausset qui écrit, une lettre que j'ai retrouvée dans mes archives. « Mon cher et très cher ami, je crois devoir vous prévenir qu'il y a le feu à la faculté. Le Conseil n'approuve pas du tout la réforme des études médicales que vous m'avez envoyée, signée le doyen Léon Binet. » Vous voyez que toutes les familles peuvent se tromper. Dans les facultés de province, très attachées à leurs prérogatives et surtout à leur mode de vie et au népotisme encore plus florissant qu'à Paris, le climat n'était pas favorable. Plusieurs de nous furent envoyés et je fus dépêché à Toulouse. Néanmoins, l'évidence s'est imposée. La réforme a permis un renouveau sensationnel de la médecine française avec l'entrée de la biologie dans les hôpitaux, donnant un élan formidable pour toutes les investigations biologiques et les recherches scientifiques. Ce fut une véritable révolution et je ne saurais que citer le président Pompidou, ce qui a été fait pour la médecine par la création des centres hospitaliers universitaires et la réorganisation des études médicales représente une véritable révolution. Et la mise en route de la réforme a été faite avec doigté, sans heurter les positions acquises. Chaque chef de service pouvait choisir, s'intégrer, comme on disait, immédiatement ou plus tard, mais à son départ à la retraite, le service serait automatiquement à temps plein. Et puis voilà, il conclut que les temps ont changé et il est un peu pessimiste sur l'avenir. Le texte a été écrit il y a 10 ans. Je dois y ajouter ce que m'a donné hier le texte de Guy Lazorte. Guy Lazorte est, vous savez, un grand neurochirurgien, doyen de la faculté de médecine de Toulouse, membre de l'Institut et membre de l'Académie de médecine. Et lui aussi a écrit un texte, d'ailleurs que je ne lui avais pas demandé, mais qui est intéressant parce qu'il montre comment la chose a été perçue en province. Alors Guy Lazorte a une introduction, comme toutes ces introductions, qui définit l'état précédent, peu importe, et il définit la création de ce fameux comité interministériel d'études médicales, d'études des problèmes de l'enseignement médical, de la structure hospitalière et de l'action sanitaire et sociale. Il décrit un peu plus longuement ceux qui en faisaient partie. Le cadre doyen, le directeur de l'enseignement supérieur, Gaston Berger, le directeur de l'assistance publique, Francis Perrin, créateur du CNRS, Louis Bugnard, chercheur de l'Institut national d'hygiène, futur Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et le doyen Lazorte n'y est entré que tardivement en 59, c'est-à-dire juste avant les décrets, quand deux doyens avaient été mis à la retraite. Un avant-projet fut présenté le 10 avril et on revient sur l'ordonnance du 30 décembre 1958. Ce qui est le plus intéressant, c'est comment les choses ont pu être appliquées à Toulouse, en sachant que Jean Dausset, qui était originaire de Toulouse, a été présenté lui-même le projet là-bas. Dans son texte, Jean Dausset dit qu'il a été en gros très mal accueilli par les professeurs et très bien le soir au dîner par les gens de sa génération. Alors, les problèmes que posait cette véritable révolution étaient nombreux. D'abord, des problèmes d'architecture, des structures hospitalières. Vous savez que, par chance, l'architecte de Rangueil, qui était le deuxième hôpital qui devait être construit, était M. Le Maréchier, avec lequel la famille Debray a quelques liens. Donc, les choses s'arrangent assez bien. Et on crée ce qui n'était pas prévu dans le plan initial, des laboratoires, des locaux d'enseignement, des salles de cours, qu'on enlève à la triste faculté qui n'avait déjà pas grand-chose et qui n'aura plus rien. On changeait pas grand-chose. C'était plus difficile pour le deuxième hôpital, qui est l'hôpital de Purpan, qui est l'hôpital historique, où il fallait créer quand même un amphithéâtre, 5 salles de cours. Et le doyen Lazorte est ravi d'avoir pu faire cet exploit parce que ce n'était pas commode. Deuxième réaction, toujours la même chose et plus difficile, la réaction des hommes. Et là encore, une grande prudence vis-à-vis du temps plein. Donc on crée un comité d'intégration, comme partout, où les chefs de service en fonction peuvent choisir entre le temps plein immédiat ou il reste mi-temps, mais leur service, quand ils sont partis, deviendra temps plein. Et autre problème, plus compliqué, c'était quand même une certaine inadéquation des besoins universitaires et hospitaliers. Les hôpitaux demandent dans certaines disciplines beaucoup plus de personnel que la faculté. Par exemple, la radiologie, l'anesthésie, la réanimation. Il faut créer des monos appartenants plein temps, et cela parut nécessaire progressivement dans toutes les spécialités cliniques, d'où la création des praticiens hospitaliers que nous appelons PH, dont le statut, la rémunération, la retraite a eu bien du mal à être mise au point. Autre problème, les fondamentalistes doivent vivre à l'hôpital, il faut quand même qu'ils y travaillent un peu, donc qu'ils s'intègrent à la vie hospitalière, mais ça je crois que Gabriel Richet montrera l'apport qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont donné à l'hôpital. Et le dernier point, c'est réellement la difficulté de faire admettre à la génération qui nous ont précédé, qui nous a précédé, le temps plein. Alors je dois dire que, comme tout à l'heure Jean Rey, je suis fils du temps plein. Je n'ai pas eu l'escalade des concours que mes maîtres ont connu. Après le Clinica, nous n'avions qu'un concours où on était nommé, il faut bien le dire, assez facilement, parce qu'on crée des choses, et nous n'avons pas eu, finalement, à concourir. Très jeune, nous avions à notre disposition un service avec trois obligations, soigner bien les malades, les locaux étaient abominables, mais les choses s'arrangeaient un peu, enseigner, et il y avait eu tout 68, donc il fallait une véritable réforme de l'enseignement qui, dans Paris, s'était établie entre 12 CHU, ce qui était peut-être un peu trop, et puis la recherche. Et finalement, je dois dire que c'est peut-être, en tout cas pour moi, la recherche qu'on a un peu subi les conséquences, mais j'ai eu la chance d'avoir de très bons collaborateurs, dont Olivier Debray, et dont Patrice Debray, pardon Patrice, mais je confonds toujours le père et le fils parce que j'ai pour eux autant d'admiration. Bon, pardon de ce lapsus qui est assez significatif. Et bien évidemment, ce qu'on reprochait à la réforme Robert Debray, c'était la triple fonction. Bien évidemment, elle ne peut pas être assurée par un seul homme et par une seule équipe. Et je dois dire que dès que les équipes sont normales, les choses se passent très bien. Il y a toujours un très bon clinicien. Il y a quelqu'un qui se croit un grand chercheur et qui travaille. Il réussit ou réussit pas. L'enseignement, c'était plus difficile parce que c'était considéré comme s'abaisser un peu. Mais finalement, c'est faux. Les étudiants, surtout en 68, étaient particulièrement motivés, particulièrement volontaires. Ils voulaient participer à cette recherche. Et pour prendre mon exemple, à la Salpêtrière, les choses se sont très bien déroulées. Mais encore une fois, pas à cause de moi, à cause de mes collaborateurs. Voilà pour l'exposé qu'aurait dû faire, mais je vous demande de bien vouloir l'en excuser parce que c'est vrai que Jean Dausset ne peut plus venir, ne veut plus venir à Paris. C'est une volonté quand on a été Jean Dausset. Et je vous fais remarquer quand même qu'il a eu la carrière opposée aux nôtres. D'habitude, on travaille beaucoup dans notre jeunesse, on fait de la médecine, 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 on devient chef de service, et à ce moment-là, un certain nombre d'entre nous, j'ai tout fait pour ne pas en être, rentrent dans les commissions, dans l'administration. Alors, ce qui est d'extraordinaire, extraordinaire pour Jean Dausset, c'est qu'il a fait le contraire. Toute la réforme, il était interne, il ne devait pas voir beaucoup ses malades, je crois, c'est techniquement pas possible. Bon, après avoir fait la campagne d'Italie, il n'a pas fait n'importe quoi. Bon. Et puis, le jour où la réforme a été appliquée, il a totalement abandonné cette vie administrative et politique et il est devenu un très grand chercheur qui a obtenu le prix Nobel. C'est vraiment une démarche tout à fait exceptionnelle. Et pour tous ceux qui, comme moi, l'ont croisé à Saint-Louis, au moment où il faisait des greffes de peau à Sheila, avec des donneurs, c'était abominable, on faisait ça dans le couloir, il avait fait venir un grand chirurgien américain qui s'appelait Rapaport, et qui greffait, c'était horrible, sur un brancard, un pauvre type qui était donneur, mais qui était très fier de donner sa peau, ou plutôt d'être un témoin pour la corrélation entre la durée de la greffe de peau et le gros fave HLA. Il a fait un travail extraordinaire, dans des conditions abominables, personne ne comprenait ce qu'il faisait. Et Dieu sait si à Saint-Louis, Jean-Bernard était entouré, et d'autres intelligences très supérieures à la mienne. Et à chaque fois que Jean Dausset parlait, personne ne comprenait rien. Il se faisait attaquer par des gens plus vieux que moi. Moi, j'aurais jamais osé. Il continuait indifférent et il a réussi. Donc, c'est vraiment une carrière exceptionnelle. Je regrette beaucoup qu'il ne soit pas là parce que dans la vie, avoir fait la campagne d'Italie, très glorieusement, deuxièmement, être le secrétaire, enfin, le jeune Turc, puis ensuite, c'est lui qui écrivait quand même. Dans la vie, il faut quelqu'un qui prenne un stylo. Il n'y avait pas de machine à écrire pour écrire. Et finir par une grande recherche est assez exceptionnel. Donc, en votre nom, je me permettrai, malgré son absence, de le remercier. Et j'espère que je n'ai pas trop déformé sa pensée. Voilà, merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine. Il lisait des extraits de Clin d'œil à la vie de son confrère et ami Jean Dausset pour évoquer la création des CHU avec Robert Debré. Précédait cette intervention celle de Claude Monobroca, fille de Robert Debré, pour retracer quelques grands moments clés de la vie de son père. Cette séance de l'Académie nationale de médecine s'est déroulée en décembre 2008 à l'occasion des 50 ans de la réforme qui créa les centres hospitalo-universitaires. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez nos émissions en lien avec la santé. Vous les trouverez sur notre site dans le thème médecine. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.